unité. Habens id se quid pertinet ad rationem unitatis. Tout ce qui appartient à la raison d'unité. Il ne lui appartient pas d'être parti, comme à l'unité numérique, qui est partie du nombre et qui se trouve participée par les réalités sujettes au nombre. Ainsi, de ce chef, aussi de ce chef, l'union de l'incarnation l'emporte sur l'unité numérique en raison de l'unité de la personne, mais non pas en raison de la nature humaine qui diffère de la personne divine et lui est seulement unie. On prend la ratio unitatis. En quoi se fait cette unité ? Et c'est parce que cette unité se fait dans la personne du Verbe que nous pouvons dire que c'est la plus grande des unités. Si je regarde du point de vue de l'élément qui est assumé et qui est uni, là je ne peux plus le dire. Mais c'est en raison de la ratio unitatis. Donc, c'est très très formel, hein, au point de vue profond, au point de vue théologique. Oui.
C'est ce qu'on a vu, c'est là.
Oui, c'est là. C'est le pur art. Et là, on touche quelque chose d'ultime. Et c'est ça que saint Thomas veut dire. On touche quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'unité. Vous voyez, dans l'ordre de la ratio unitatis. Dans l'ordre de la ratio unitatis. L'analogie là éclate complètement. N'est-ce pas ? Dans la ratio unitatis. Et alors, c'est intéressant, si vous voulez, hein, parce que, souvenez-vous, le début du traité de l'incarnation, c'était tout était vu vers la ratio Bonne. Très intéressant que ça se voit comme ça. C'est la raison de bonté qui commandait tout le point de vue de la convenance sur le mystère de l'incarnation, et c'est la raison d'unité ici qui nous montre l'excellence unique de ce mystère. Et c'est curieux, parce que saint Thomas voit les mêmes expressions, n'est-ce pas ? Habens in se quid pertinet ad rationem unitatis. Comme tout ce qui appartient à la raison de bonté en Dieu est souverain. Ici, la ratio unitatis, c'est la personne. Et comme c'est le point de vue de la personne. La personne, c'est ce qu'il y a de plus un. C'est pas l'essence qu'il y a de plus un, c'est la personne. Et c'est pour ça que là, nous touchons quelque chose d'ultime, quelque chose qui est tout à fait particulier. Alors, voyons tout de suite les deux autres objections. L'union est d'autant moins étroite que les éléments unis sont plus dissemblables. Or, les éléments de l'union hypostatique, nature divine et nature humaine, sont souverainement dissemblables. Étant à une distance infinie l'un de l'autre. Une telle union doit donc être aussi peu étroite que possible. Dit Chandum, donc il faut répondre, l'objection vaut du point de vue des éléments unis, non sous le rapport de la personne en laquelle se fait l'union. Nonotem ex parte personae in qua est facta unio. Troisième objection, l'union aboutit à quelque chose d'un, mais par l'union de l'âme et du corps en nous, se trouve réalisé un être un, à la fois sous le rapport de la personne et de la nature. L'union de la nature divine et de la nature humaine ne constitue un être un, que sous le rapport de la personne. L'union de l'âme et du corps est donc plus étroite que celle de l'union divine et de la nature humaine. C'est très joli ça. Comme objection, c'est toujours très intéressant, hein, de comparer ces deux types d'union. L'union de l'âme et du corps, l'union qui se fait in persona Christi, dans la personne du Verbe. L'unité de la personne divine est plus grande que l'unité de la est plus grande que l'unité de personne et de nature en nous. Unitas divine personae est maior unitas quam unitas personae et naturae in nobis. C'est pourquoi l'union de l'incarnation l'emporte sur l'union de l'âme et du corps. Quant à l'argument que l'on oppose aux difficultés précédentes, il suppose faussement que l'union de l'incarnation est plus grande que l'unité essentielle des personnes divines. La parole de saint Augustin doit s'entendre non pas en un sens que la nature humaine est plus intimement unie au Verbe de Dieu que lui-même ne l'est au Père, oui, il ne faut pas faire l'opposition, mais en ce sens que sous un rapport, la ratio, sous un rapport, l'homme est plus uni au Fils que le Fils au Père. Je désigne en effet le même suppôt quand je prononce à propos du Christ les mots homme et Fils de Dieu. Les mots Père et Fils désignent au contraire des suppôts différents. Bon, alors c'est sous cette fine pointe qu'il faut saisir, autrement évidemment, on voudrait dire que la très sainte Trinité n'a pas la simplicité la plus grande, il faut bien comprendre, la simplicité la plus grande c'est la simplicité qui est en Dieu, mais l'unité qui se fait dans la personne du Verbe est une unité qui touche quelque chose d'ultime. Et c'est parce que ça touche quelque chose d'ultime qu'on peut dire que cette union est plus grande, maximum. Qu'elle touche quelque chose d'ultime.
Oui. Voilà, on peut comprendre que le Verbe reste uni au cadavre.
Oui, c'est sûr que c'est dans la mesure même où vous allez jusqu'au bout de l'unité que vous comprenez que cette unité est éternelle et qu'elle ne peut pas dissocier. Elle est unie à l'âme séparée, et que la mort se réalise dans cette unité. C'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps se réalise dans le Verbe, dans cette unité. Cette unité est tellement profonde qu'elle peut assumer la mort. C'est une autre manière de voir. Personne ne peut supprimer cette unité. Parce que cette unité est celle du Verbe même. Donc la mort ne peut pas. La mort atteint les autres unités, mais elle ne peut pas atteindre cette unité-là. Et donc, le Verbe reste uni après la séparation de l'âme et du corps.
Mais ça m'interdirait de penser l'union du Verbe et la nature humaine comme étant liée par l'âme. Le Verbe est lié à l'âme et par l'âme.
Tout à fait. Parce qu'elle est dans de l'être.
De la nature, oui.
Oui. Pas d'autres questions? Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est exactement la démarche inverse dans le 7 contre 1 et dans le reste contre 2?
Dans le 7 contre 1 et dans le
entre l'ordre qui est mis entre union et unité.
Je ne vois pas ce que vous dites. Démarche inverse dans le 7 contre 1 et l'article.
Oui.
Et la fin de l'article.
Non, et puis le corpus.
Le corpus. Vous voyez dans quel sens? Dans quel sens voyez-vous ça? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire.
Parce que l'union qui explique l'unité pour saint Augustin, alors que saint Thomas prend plutôt la position inverse.
Ah, c'est pas une position inverse, c'est saint Augustin. Il montre ce qu'il y a de juste en saint Augustin et une interprétation qui serait fausse en saint Augustin. Je crois que c'est ça qu'il veut montrer. Une interprétation juste. Cette intuition, saint Augustin, de saisir qu'il y a cette unité la plus grande qui existe dans le mystère de la nature humaine, unie au Verbe, de toucher quelque chose d'ultime. Et c'est en ce sens-là, c'est maximum. Toucher quelque chose d'ultime. Maximum, toujours, c'est l'ultime, quand ça donne ça. Donc on touche quelque chose d'ultime. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller au-delà de l'union dans le Verbe, dans la personne. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose d'ultime. Ceci n'empêche pas, et alors c'est la fin de l'article de saint Thomas, ceci n'empêche pas que l'union qui existe entre le Fils et le Père, qui ont même nature, et que cette nature divine a une simplicité absolue, il y a là une idée qui est infinie. Il n'y a pas de position entre nous. Je me... Et il me semble. Alors, article 10, l'union de l'incarnation se fait-elle par le moyen de la grâce? C'est aussi, ça c'est des questions moins importantes, qui sont moins importantes parce que c'est, vous voyez, jusqu'ici, on a été à essayer théologiquement de préciser cette union. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, au point de vue méthode de Saint-Thomas, c'est que la ratio union, ça arrive au terme. C'est toujours intéressant, ça. C'est l'un est propriété de l'être. C'est pas la... C'est propriété de l'être. Et alors, ça arrive comme dernier article. On a essayé de voir tout ce qui est impliqué dans cette union, et on termine que cette union, elle est maxima. Oui, on la qualifie, elle est maxima. Elle a quelque chose d'unique, et elle a quelque chose d'ultime. Tandis qu'ici, ça va être négatif, l'union de l'incarnation se fait-elle par le moyen de la grâce? La grâce est un accident, mais l'union de la nature humaine à la nature divine n'est pas accidentelle. Il ne semble donc pas qu'elle se fasse par le moyen de la grâce. Alors, réponse saint Augustin. La grâce qui fait que tout homme est chrétien dès le principe de sa foi est celle-là même qui a fait que, dès son premier instant, cet homme est devenu Christ. Mais l'homme n'est devenu Christ que par l'union à la nature divine. Cette union a donc été réalisée par la grâce. Alors, il s'agit de comprendre. Comme il a été dit dans la seconde partie de la somme, la grâce possède une double signification. Gratia duplicitaire dicitur. La grâce est dite de deux façons. D'une part, elle signifie la volonté. Uno modo, ipsa voluntas Dei, gratia aliquid dantis. D'une part, elle signifie la volonté de Dieu donnant gratuitement quelque chose. D'autre part, elle signifie le don lui-même fait gratuitement par Dieu. Vous voyez, là, ce serait intéressant de réfléchir là-dessus. Là aussi, la transposition que donne le Père Eris par rapport au texte de saint Thomas. Je crois qu'il faut être un peu sensible à ça. La grâce possède une double signification. Alors, on donne les deux significations. Regardez le texte, c'est pas ça qui est dit. Et vous voyez pourquoi saint Thomas ne parle pas de signification. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la grâce. La signification regarde le quid. C'est tout à fait autre chose de dire dicitur duplicitaire que de dire deux significations. Je crois, c'est pour être sensible à ça et montrer comment la scolastique oublie au fond constamment, parce que le Périsse est encore dans la scolastique. C'est une très bonne scolastique, mais c'est encore dans la scolastique. Alors la scolastique a une tendance de vouloir réintroduire le quid, la signification. Alors ça se voit comme ça tout le temps, des petits trucs de rien du tout, qui fait qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus dans le climat vrai de la théologie de saint Thomas, où saint Thomas reconnaît toujours que le théologien ne peut pas dire le quid, il dit le commodo non sit, hein. Il dit comment ça n'est pas. Et je ne peux pas dire ce que c'est que la grâce. C'est un mystère. Donc parler de la double signification de la grâce, attention. Vous voyez, la signification est rattachée à l'appréhension et non pas judicium, au jugement. C'est simplement pour signaler ces choses-là, parce qu'autrement, on va vers un intellectualisme qui n'est plus celui de saint Thomas. D'autre part, elle signifie le don lui-même fait gratuitement par Dieu. Le Père Christ ne tombe pas dans le travers. Mais la traduction risque de le faire tomber dans ce point de vue-là. Par ailleurs, la nature humaine a besoin de la volonté miséricordieuse de Dieu pour être élevée jusqu'à lui. A besoin de la volonté miséricordieuse de Dieu pour être élevée jusqu'à lui, ne le pouvant par ses propres forces. Mais cette surélévation est double. Elle affecte tantôt l'opération par laquelle les saints connaissent et aiment Dieu, tantôt l'être personnel. C'est le cas particulier du Christ, dont la nature humaine est assumée par la personne du Fils de Dieu. Il est évident que pour parfaire l'opération, la faculté doit être elle-même surélevée par une disposition habituelle. Pour qu'une nature soit unie à son suppôt, au contraire, il n'est nullement besoin d'une telle disposition. Donc, il est évident que pour parfaire l'opération, la faculté doit être elle-même surélevée par une disposition habituelle. Pour qu'une nature soit unie à son suppôt, au contraire, il n'est nullement besoin d'une telle disposition. Concluons donc, après cette série de distinctions, mais ça n'a fait que des distinctions, justement. Concluons donc que si par grâce on entend la volonté de Dieu dispensateur, dispensant quelque don gratuite ou accordant à quelqu'un son agrément ou sa bienveillance, il est très vrai que l'union de l'incarnation se fait par grâce, comme l'union des saints à Dieu dans la connaissance et l'amour. Si l'on entend par grâce le don gratuit de Dieu, alors le fait pour la nature humaine d'être unie à la personne divine peut être regardé comme une grâce, puisqu'il n'a été précédé d'aucun mérite. Et l'on ne peut admettre qu'une telle union se soit faite par le moyen d'une grâce habituelle. C'est relativement facile à comprendre. Une fois qu'on a saisi dans le traité de la grâce, hein, présupposé le traité de la grâce. Le traité de la grâce, vous pouvez considérer la grâce comme le regard de Dieu sur nous, le regard bienveillant de Dieu sur nous, le regard miséricordieux de Dieu sur nous. Ben, il est bien évident que le mystère de l'incarnation présuppose ce regard. Que c'est là où la miséricorde de Dieu est la plus proche pour nous. Et donc c'est là où la grâce touche son aspect ultime, son aspect le plus gratuit. Si je regarde la grâce comme un don que Dieu nous a fait, un don gratuit, par l'intermédiaire duquel je pourrais réaliser quelque chose, par la grâce, mes opérations sont méritoires. Par la grâce, mon intelligence est surélevée. Alors c'est le don, c'est l'habitus. L'habitus qui est la vertu, virtute légale, ou l'habitus antitatif qui est la grâce habituelle. Alors si je regarde la grâce de cette manière-là, non, l'union hypostatique ne se fait pas par le moyen de la grâce. Parce qu'elle ne se fait pas par le moyen de cet habitus, par le moyen d'une disposition. Elle se fait immédiatement. Et c'est pour ça que Saint Thomas avait présupposé qu'on est dans l'ordre ontologique. Alors, parce qu'on est dans l'ordre ontologique, la nature est immédiatement unie à sa subsistance, sans intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de disposition.
Oui. Pourquoi ici parle d'intermédiaire dans l'ordre moral, du mérite, et vous répondez, parce que ça ne m'indique pas, mais je peux très bien comprendre, dans l'ordre ontologique.
Ah, il est dit dans l'ordre ontologique, vous voyez, quand il le prend juste avant. Pour qu'une nature soit unie à son suppôt, au contraire, il n'est nullement besoin d'une telle disposition. C'est pas uniquement. Il prend l'ordre moral, parce que. Il prend l'ordre, je dirais pas l'ordre moral, il prendrait l'ordre de l'opération vitale. Parce que c'est le seul exemple qu'il peut prendre. Hein. Il ne peut pas prendre d'autres exemples. On est devant un cas unique. Alors, je ne peux pas prendre d'autres exemples. Mais il a pris l'exemple précédemment. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'interprète de cette manière. Et quand il dit Natura adet esse in supposito suo, non fit mediante alico habitu. Ça, c'est bien de Gueck. Oui, ça joue, c'est extraordinaire. Ça, c'est... Les analogies jouent à différents niveaux. Mais ce qu'il veut montrer en définitive, c'est que entre la nature humaine du Christ, la nature humaine du Christ et le Verbe, il ne doit pas y avoir de médiation. Il ne doit pas y avoir de disposition. C'est la nature humaine qui est immédiatement assumée par le Verbe. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un ordre substantiel, parce qu'on est dans un ordre ontologique. Et que la nature, par rapport à son suppôt, n'implique pas de dispositif. C'est immédiat.
La grâce du Dion, alors, qu'est-ce que c'est ?
La grâce du Dion, c'est ça. La grâce du Dion, c'est ça. C'est la nature humaine assumée par le point de vue, par la personne vivante. C'est ça, la grâce du Dion.
Ce n'est pas quelque chose d'habituel.
Quoi ?
Ce n'est pas du tout quelque chose
d'habituel. Ah non, non, non. C'est ce qu'il avait précisé. C'est ce qu'il précise durant tout cet article. Cette grâce du Dion, c'est ça. C'est l'union hypostatique. C'est la nature humaine en tant qu'elle est assumée par le Verbe de Dieu. Alors, c'est une grâce, puisque c'est évident, et c'est pour ça qu'il dit, voyez là, il exprime comment on peut, si je regarde la volonté de Dieu, la volonté bienfaisante de Dieu, la volonté miséricorde de Dieu, je peux dire que c'est une grâce d'union. Vous voyez ? Si je la regarde directement elle-même, je dis, c'est l'union. Vous voyez ? Et les deux choses se tiennent, sont un. Et la grâce d'union, c'est ça. Alors, réponse à la première objection. La grâce, considérée comme un accident. Grâce à quoi est-ce accident, ça ? N'oubliez jamais, je vous ai déjà dit, tout le traité du Christ, tel que saint Thomas nous le donne, présuppose toute la théologie. C'est ça qui est très beau. La grâce considérée comme un accident est une certaine similitude de la divinité participée par l'homme. Gratia quest accidens est quidam similitudo divinitatis participata in homine. Une similitude participée de la divinité. C'est pas de la divinité participée, mais c'est une certaine similitude participée de la divinité dans l'homme. Ben oui, vous voyez, attendez, qui dit que divinité participée, c'est pas tout à fait juste. C'est une similitude participée de la divinité. Je crois que c'est ça qu'il dit. Similitude divinitatis participator, non pas participate. Participata, c'est la similitude qui est participée de la divinité dans l'homme. Mais dans l'incarnation, on ne peut pas dire que la nature humaine participe à une similitude de la nature divine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est unie à la nature divine dans la personne du Christ, dans la personne du Fils. Or, la réalité l'emporte sur l'image, participer de cette même réalité. Magis hotel est ipsa rest. Quam similitudo eius participata. La réalité, c'est le Verbe. Ce n'est pas la similitude participée. La similitude participée, c'est la grâce. Or, la nature humaine dans le Christ est immédiatement unie au Verbe. Donc, elle n'est pas unie au Verbe par la similitude participée qui est la grâce. Et c'est pour ça que saint Thomas dit: or, la réalité l'emporte sur l'image participée de cette même réalité. C'est très difficile à traduire. Hein? Parce que maior autem est ipsa rest, quam similitudo eius participata. Donc la réalité elle-même est plus que sa similitude participée. Deuxième objection. En outre, l'âme est le sujet de la grâce, Mais d'après saint Paul, la plénitude de la divinité a habité corporellement dans le Christ. Ce n'est donc pas par la grâce que se fait l'union. La grâce habituelle se trouve seulement dans l'âme. Mais la grâce est le don gratuit de Dieu qui consiste à être uni à une personne divine et faite à toute la nature humaine, composée de l'âme et du corps. Hein, vous voyez de nouveau encore ça. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que la plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ. La nature divine est en effet unie non seulement à l'âme, mais au corps. Ça aussi, c'est très intéressant, pour bien faire comprendre à quel niveau se fait cette union. Elle se fait au niveau du verbe, donc de la personne, donc au niveau de l'être. Tandis qu'au contraire, par le point de vue de la grâce, en tant qu'elle est une participation à la nature divine, la grâce sanctifiante, elle est dans l'âme, elle n'est pas dans le corps. Elle est reçue dans l'âme en tant que l'âme est quelque chose qui a une capacité au-delà du corps. C'est l'âme immortelle qui est le siège de la grâce. Tandis que la nature humaine du Christ est prise dans sa totalité, elle est assumée dans sa totalité, l'union de l'âme et du corps. Et c'est pour ça qu'elle vit corporellement. Vous voyez, c'est très beau comme pour bien faire comprendre justement combien là on est dans l'ordre, dans un ordre ontologique, dans un ordre qui est dans l'ordre de l'être. L'on pourrait dire aussi qu'elle habite dans le Christ corporellement pour l'opposer au sacrement de l'ancienne alliance, de l'ancienne loi, qui sont l'ombre des choses à venir, tandis que le corps ou la réalité, c'est le Christ. Le corps étant ici opposé à l'ombre, la réalité à l'apparence. Certains expliquent encore que la divinité habite corporellement dans le Christ, parce qu'elle s'y trouve de trois manières, de même que le corps a trois dimensions. Elle s'y trouve en effet, premièrement par essence, présence et puissance, comme dans toutes les créatures. En second lieu, par la grâce sanctifiante, comme dans les saints. Enfin, par l'union personnelle qui est propre au Christ. D'où l'on peut répondre à la troisième difficulté, que l'union du Christ à Dieu ne se fait pas seulement par la grâce habituelle, comme chez les autres saints, mais qu'elle se fait selon la subsistance ou la personne. Voilà le caractère tout à fait particulier. Et alors cette union prend l'être, du moins, prend la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. On peut dire l'être, puisque oui, on peut dire l'être réel. Oui.
Il dit
Non, c'est la grâce habituelle, on va le voir après.
Ah oui, mais c'est pas la grâce
Non. C'est la grâce habituelle, on le verra après. Et on verra que la grâce habituelle est une conséquence de l'union. Vous voyez, c'est l'effet de l'union. Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est la question, au fond, si on fait un petit schéma. Alors, on maîtrise la nature humaine du Christ. On dirait, la nature humaine du Christ, pour être plus apte à être unie au Verbe, mais il faut qu'elle soit sanctifiée. Et pour être sanctifiée, il faut la grâce. Vous voyez, la dévotion. Alors on va dire, la nature humaine du Christ, par la grâce habituelle, est plus apte à être unie au Verbe. C'est une petite imagination pieuse. C'est très joli, c'est très beau. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un abîme entre la nature humaine et le Verbe. Il y a un abîme. Et cet abîme reste toujours un abîme. Donc c'est pas la peine de vouloir le combler. Il y a un abîme. C'est la nature humaine qui est immédiatement assumée par le Verbe. Pas par l'intermédiaire de la grâce. La grâce sanctifiante, nous le verrons, est au contraire un effet de cette union de la nature humaine assumée par le Verbe. C'est une conséquence. Ce n'est pas de l'ordre de la disposition. Et je crois que c'est pour mieux faire comprendre le côté abrupt, si j'ose dire, hein, du mystère de l'union hypostatique. Quelque chose inouï de la nature humaine, immédiatement assumé par le maître. Dans la gratuité absolue. Et c'est ça, c'est pour écarter ça. Oui.
Le Verbe est Dieu, donc il est la grâce.
Enfin, oui.
C'est le principe. Le principe de toute grâce.
Il est le don. Oui. Le principe de toute grâce. Puisque la grâce, c'est toute la très sainte Trinité qui est le principe de toute grâce. Oui. Donc il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin d'intermédiaire, mais l'intermédiaire, vous comprenez, c'est là où ça, on voit très bien que pour nous, nous nous plaçons du côté de la vie. Alors du côté de la vie, on dit il faut des intermédiaires, il faut que ce soit plus apte, plus capable à être sanctifié par le Verbe de Dieu. On dit non. Du côté être, entre la nature et sa subsistance, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a encore 3 minutes. 5 minutes, très bien, moi je veux dire. Ils sont fatigués. Je sens qu'ils ont presque envie plus de dormir. Je comprends, c'est fatigant. Bon. Ça c'est. Reparti. Article 1. L'union de l'incarnation a-t-elle été la conséquence de quelques mérites? Avant, pas tout de suite, hein. C'est facile, c'est intéressant, c'est beau, mais c'est... Saint Augustin écrit « Celui qui prétend trouver en notre chef des mérites précédant son unique génération, qu'il cherche en nous, ses morts, des mérites antérieurs à notre multiple génération. » À notre multiple régénération. Mais notre régénération n'est précédé d'aucun mérite de notre part. Selon ce mot de l'Épître à Tite, ce n'est point à raison des œuvres de justice que nous avons faites, mais dans sa miséricorde qu'il nous a sauvés au moyen d'un bain de régénération. C'est donc que la génération elle-même du Christ n'a été précédée d'aucun mérite. Toujours ce caractère très très net, très très direct. Vous voyez le raisonnement, hein? C'est un raisonnement qui est analogique. Ça, c'est tout à fait un raisonnement analogique, typiquement. Analogia, on passe de l'un à l'autre par rapport à la tête et les membres, et par rapport à ce qui est antérieur et ce qui est après. Pour ce qui est du Christ lui-même, il est manifeste, d'après ce qui a été dit, qu'aucun de ses mérites n'a pu précéder l'union hypostatique. Nous ne prétendons pas en effet, comme Photin, que le Christ fut d'abord un homme ordinaire et qu'ensuite, par le mérite d'une vie sainte, vous voyez, les Photins, ils se multiplient, il y a des petits-enfants, des petits Photins, c'est ça, c'est des choses qui se disent, alors on les voit très bien. Nous ne prétendons pas en effet, comme Photin, que le Christ fut d'abord un homme ordinaire et qu'ensuite, par le mérite d'une vie sainte, il obtint d'être le Fils de Dieu. Mais nous disons que dès le principe de sa conception, homme, il fut vraiment le Fils de Dieu, n'ayant d'autre hypostase que celle du Fils de Dieu. Selon ce mot de Saint Luc, l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'exégèse forte de Saint Thomas. C'est pourquoi toute activité proprement humaine est conséquente en lui à l'union. Operatio sequitur esse. Hein? Le vieil adage. Operatio sequitur esse. Il faut exister pour opérer. Donc impossible de penser que l'union hypostatique soit le fruit de mérite de la part du Christ. Puisque l'exister du Christ est antérieur à toutes ses opérations. Aucune de ses actions n'a donc pu mériter cette union. Bien plus, les œuvres d'un homme, quels qu'ils soient, n'ont pu mériter en justice l'union de l'incarnation. On pourrait dire que c'est Marie qui est pas méritée. Elle méritait d'avoir un fils comme celui-là. Elle était tellement, tellement merveilleuse. Alors le mystère de l'Immaculée Conception va mériter le mystère de l'union hypostatique. Une théologie pieuse. Irréchelle, voyons ça. Oui, le mystère de l'Immaculée Conception et Marie, dans sa consécration totale à Dieu, mérite le mystère de l'union hypostatique. La raison première en est... C'est faux, hein, c'est faux. La raison première en est que les œuvres méritoires de l'homme sont ordonnées à la béatitude, laquelle est la récompense de la vertu et consiste dans la pleine jouissance de Dieu. Or, l'union de l'incarnation ne se réalise en l'être personnel du Verbe, donc l'union qui se réalise en l'être personnel du Verbe, dépasse l'union de l'esprit bienheureux à Dieu, laquelle s'opère par un acte de l'élu. Ça, c'est très intéressant, parce que saint Thomas fait ces analogies-là dans le Contrat Gentiles, n'est-ce pas ? Il fait l'analogie, c'est-à-dire, entre la vision béatifique et l'union hypostatique. Et ici, il prend l'inverse. C'est toujours les mouvements divers de saint Thomas veut faire, vous voyez ? C'est important de voir ça. L'unio incarnationis cum sit in esse personali. In esse. Alors ça, c'est un bon point pour l'unité. In esse personali. Hein. C'est fort, ça, comme expression. D'habitude, il subsiste. Tandis qu'ici, il dit, elle est in esse personali. L'unio, l'union de l'incarnation, comme elle est in esse personali, transcendit unionem, transcendit unionem mentis beate ad Deum. Elle transcende l'union du bienheureux vers Dieu, qui est par un acte de jouissance, un acte de joie, un acte d'intelligence. C'est très très beau ça. Hein. Alors il faut bien comprendre, hein, in esse personali. Il me semble que s'il y avait deux essais, ce serait plus un essai personnalisé. On ne peut plus dire ça. Ça, c'est absolument impossible. Elle se fait dans l'union, dans l'essai personnalisé. Je n'ai pas vu ce texte-là, cité par le père Padfort, pourtant il connaît bien son saint Thomas. Parce que ça, c'est le texte peut-être le plus fort. L'union in essai personnalisé. Une union qui se fait dans l'essai personnalisé. Ben, fait que nécessairement, il ne peut pas y avoir deux essais. Autrement, l'union ne serait pas une essai personnali. Tandis que d'habitude, il dit toujours, elle est dans la subsistance, elle est dans le verbe. Donc, dépasse. Alors ça, c'est très important, vous voyez, parce que ça monte. Saint Thomas situe ici l'union de la nature humaine dans le verbe, comme dépassant toutes les autres unions. Quelle est la plus grande union qui vient après ? C'est l'union de l'esprit et de Dieu dans la vision béatifique. L'esprit, l'union de l'esprit et de Dieu dans la vision béatifique fait que l'esprit est uni personnellement dans la vision béatifique, est uni personnellement à Dieu lui-même en vivant ce que Dieu vit. Puisque c'est le Verbe de Dieu qui est communiqué au bienheureux pour qu'il puisse voir Dieu en Dieu. Oui. De plus, la grâce qui est principe de mérite n'est pas elle-même objet de mérite. Ça, c'est constamment ce que saint Thomas prendra comme raisonnement. Hein, et c'est important à bien le comprendre. À plus forte raison, l'incarnation ne l'est-elle pas, elle qui est principe de la grâce ? Selon cette parole de saint Jean, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Enfin, l'incarnation du Christ répare la nature humaine tout entière. Elle ne saurait donc être méritée par un homme ordinaire, car la bonté d'un individu ne peut être cause de la bonté de toute la nature. Cependant, il est exact que les saints pères, par leurs désirs et leurs prières, ont mérité d'un mérite de convenance l'incarnation. Il y a plus forte raison, Marie. Il convenait en effet que Dieu exauça ceux qui lui avaient été fidèles. Donc on pourrait dire que le mystère de l'Immaculée Conception est donné pour que Marie puisse mériter d'un mérite de convenance le mystère de l'incarnation.